Bonjour à tous et à toutes. Au micro, Paul Ouzi Meyerson, qui a le plaisir de vous présenter une nouvelle émission de notre magazine Chronique pour la paix. Chers auditeurs, je suis heureux de vous retrouver en ces temps difficiles. Je vous souhaite en bonne santé et faites attention à vous, gardez vos distances. Je vais recevoir maintenant David Chemla, qui est le secrétaire général de J-Call Europe. Avec lui, nous allons faire le point sur la situation politique en Israël. Nous allons essayer de comprendre ce qui se trame au gouvernement et à la Knesset, le Parlement israélien. Cependant, nous n'oublions pas que là-bas aussi la mobilisation est à l'ordre du jour contre le coronavirus. David Chemla, vous êtes avec nous ?
Oui, bonjour.
Bonjour David Chemla. Alors, d'abord, je vais vous demander, comme à l'ordinaire, de présenter en quelques mots, brièvement, ce qu'est J-Call Europe, dont vous êtes le secrétaire général.
J-Call Europe est un mouvement que nous avons créé il y a exactement 10 ans maintenant, suite à la publication d'un texte signé par un certain nombre de personnalités, dont Bernard-Henri Lévy, Finkielkraut, Cohen Bendit et beaucoup d'autres, pour en fait montrer l'urgence qu'il y avait à mettre fin à l'occupation et à trouver une solution sur le partage du pays pour, en État palestinien d'un côté et un État d'Israël de l'autre côté. Voilà, donc c'est ça les motivations qui nous ont conduit à créer J-Call Europe, qui existe maintenant dans 4 ou 5 pays en Europe, en France, Belgique, Suisse, Italie et Espagne. Voilà.
D'accord. Et il y a combien de temps qu'il existe ce mouvement ?
La pétition a été signée exactement en 2010. On avait fait un lancement au Parlement européen de mouvement. Et donc, depuis 10 ans, ça se développe et c'est structuré par État, dans certains États où il y avait des militants prêts à créer des structures locales.
Très bien. Alors, nous allons rentrer dans le vif du sujet de David Chemla. À la surprise de tout le monde, Gantz a accepté de former ce nouveau gouvernement d'union avec l'ancien Premier ministre Netanyahou, qui l'est toujours. D'après vous, David Chemla, pour quelles raisons Benny Gantz, qui ne voulait pas gouverner avec un Premier ministre poursuivi pour des faits de justice, pour quelles raisons Gantz a accepté d'un seul coup de rejoindre Netanyahou et de former un gouvernement avec lui ?
Bien, suite aux élections, le décompte des voix a établi le résultat suivant. Le bloc de droite, c'est-à-dire qui soutenait inconditionnellement Netanyahou, représentait 58 députés entre le Likoud et les partis religieux. Et le bloc qu'on appelle de gauche, mais en fait qui était beaucoup plus composite, représentait 62, puis il y a eu une défection, plus que 61 députés. Ces 61 députés, théoriquement, devaient lui donner une majorité suffisante pour constituer un gouvernement, mais cette majorité-là était composite entre son parti, le bleu-blanc, dans lequel il y avait un certain nombre de députés qui ne voulaient absolument pas d'un soutien même externe de la liste arabe unie, donc le blanc, les partis de gauche Meretz et le parti travailliste, et la liste arabe unie qui a établi un très bon score à ces élections, 15 députés. Donc Gantz n'avait pas les moyens de constituer un gouvernement avec ses 61 députés, donc c'était les choix dans lesquels il était confronté étaient soit aller vers un quatrième tour, et ça, personne n'en veut en Israël, et en plus, la situation sanitaire a interdit la possibilité d'avoir une moindre élection, et sans parler de leur coût.
Il y avait un consensus, personne ne voulait de ce quatrième tour.
Et personne ne voulait, soit aller vers un mouvement d'union nationale. Donc il a fait ce choix en sachant que ça allait diviser son camp, et c'est le cas, puisque son parti bleu blanc s'est divisé. Une partie l'a suivi et une partie qui correspond au parti de Yesh Atid, notamment dirigé par Yair Lapid, ne l'a pas suivi. Et plus, c'est Bougui Yalon, ancien ministre de la Défense et chef d'état-major, est resté avec Lapid pour condamner ce choix-là. Donc voilà, il a fait ce choix-là. Je pense que Gantz, si vous voulez, me semble-t-il, est rentré en politique il y a plus d'un an. motivé par deux idées importantes. D'abord, réintroduire de la dignité dans le pays au niveau de du fonctionnement des institutions, parce que ça a été complètement mis à mal depuis ces dernières années, notamment sous l'impulsion de Netanyahu. Et d'autre part, essayer de réduire la scission interne entre deux camps qui se haïssent, deux blocs qui se haïssent, pour essayer de rétablir un climat un peu plus serein dans le débat politique. Donc, au contenu de ses motivations, plus la situation d'urgence dans laquelle le pays se trouve, il a fait son choix.
Donc vous pensez que c'est un acte de responsabilité ?
Je pense que c'est un acte, de son point de vue, de responsabilité. Il en paye un coût politique, il va peut-être en payer un coût politique. Tout dépendra de la façon dont ça va se passer, dont les négociations en cours permettront d'établir exactement la répartition des responsabilités des portefeuilles entre les deux camps. En tout cas, un premier sondage suite à sa décision montre que 61% du public le soutient et 56% des électeurs de son propre parti ont soutenu ce choix. Donc voilà, ce sont les faits. Je ne dis pas qu'il a eu raison ou tort. J'essaie de comprendre, d'analyser. Et maintenant, depuis déjà une dizaine de jours que cela a été établi, les négociations sont en cours. Donc théoriquement, le principe est le suivant. Netanyahou conserverait dans un premier temps pendant 18 mois le poste de Premier ministre et Gantz serait vice-Premier ministre. Et puis au bout de 18 mois, il y aurait un changement, Gantz Premier ministre et Netanyahou vice-Premier ministre. Alors, évidemment, beaucoup de gens disent en Israël, et compte tenu du passé du Premier ministre Netanyahou, qu'il ne faut pas lui accorder le moins de crédit à ses promesses et qu'on est loin d'être certain qu'il, dans un an et demi, il céderait sa place. Mais un an et demi, c'est très long dans la politique israélienne, il peut se passer plein de choses. Et puis maintenant, entre-temps, il y a aussi toutes les négociations qui sont en cours sur l'attribution des portefeuilles. Et ça, pour l'instant, Gantz aurait obtenu, en tout cas, son portefeuille clé, enfin, dans son camp, notamment le portefeuille de la ministère de la Justice, qui est un portefeuille important dans la mesure où, comme vous le savez, Netanyahou est inculpé. Son procès, qui était programmé, a été repoussé.
Justement, à ce propos, David Chemla, je vais vous poser une question. Gantz avait dit qu'il ne voulait pas rentrer au gouvernement parce qu'on ne pouvait pas gouverner avec un Premier ministre qui est inculpé et qui doit passer en justice. Vous-même, à Agicole, je crois que vous avez soutenu, vous aviez de la sympathie pour la candidature de Gantz et de son bloc du centre. Et comment vous vous êtes senti quand vous avez appris le ralliement de Gantz au gouvernement d'urgence nationale dirigé par Netanyahou?
Évidemment, on aurait préféré
ça comme une mauvaise surprise.
Oui, on aurait préféré un gouvernement de centre-gauche, disons plus conforme à nos choix politiques, plus enclin à reprendre une négociation politique avec les Palestiniens, etc., etc. Mais la réalité montrait que ce n'était pas possible arithmétiquement parlant. Donc, il est certain qu'une autre élection n'était pas possible non plus. Donc, voilà. Le seul problème, est-ce que Gantz arrivera à tenir les exigences qu'il maintient pour l'instant? On n'a pas. Il y a beaucoup de fake news, c'est-à-dire des informations qui circulent sur les négociations. Chaque jour, il y a de nouvelles annonces. Comme je commençais à le dire, il aurait obtenu le portefeuille de la justice, qui est une clé dans la mesure où il y a des procédures judiciaires contre Netanyahou et à venir contre d'autres ministres du Likoud qui sont aussi mis en examen pour des faits de corruption. Il aurait obtenu apparemment le ministère de l'Éducation nationale. Bon, c'est dans le cadre de répartition de portefeuille. C'est un ministère aussi important parce que ça fait des années, je dirais, que la droite tient ce portefeuille et c'est pour former les jeunes générations à venir. Je crois qu'il est important d'avoir une approche un peu plus équilibrée, en tout cas, et d'éducation dans le pays que cela a été fait ces dernières années, notamment par un climat qui s'est développé ces dernières années. Donc, il faut c'est un portefeuille important. Il aurait obtenu, évidemment, le portefeuille de la défense, peut-être la culture, la communication, etc. Donc tout ça, sont des portefeuilles importants, mais je vous dis, tant qu'on n'a pas le fin mot de la fin, on ne peut pas encore savoir et comment ça va se mettre en place, qui sera le président de la Knesset, quelles sont les prérogatives de Gantz et de Netanyahou respectivement. Et puis il y a un dernier point.
Est-ce que vous n'avez pas peur que les partis ultra-orthodoxes et les partis national religieux comme Yémina rue dans les brancards et face des problèmes s'ils sont complètement écartés des postes ministériels que Netanyahou leur avait promis.
Alors c'est tout le débat. Le débat en ce moment, il est d'ailleurs plus dans le camp de la droite que dans le camp de Gantz, parce qu'effectivement Netanyahou a promis beaucoup de portefeuilles à ses alliés, mais la conséquence c'est que ça va faire un gouvernement avec 30 ou 34 ministres, qui est un gouvernement pléthorique, alors que 18 ministères suffiraient, et parce qu'il a promis plein de portefeuilles aux uns et aux autres. Alors le débat effectivement est plus dans ce camp-là, notamment avec Bennett, du parti Yémina et Ayelet Shaked, qui Bennett perdant le poste de ministre de la Défense qu'il détenait, et Shaked espérait retrouver un poste ministériel aussi. Pour l'instant, on ne lui promet pas. Donc voilà, c'est sûr que ça va être difficile. Il y a un point aussi important, c'est, vous savez, le fameux plan Trump, plan de paix, l'accord du siècle, etc., de Trump.
Bien sûr.
Que nous avions, nous, condamné parce que ce plan n'est pas un plan qui permettrait d'arriver à une moindre négociation, puisqu'il préconisait de façon unilatérale une annexion d'une partie de la Cisjordanie, et certain que ce n'est pas de cette façon-là qu'on résoudra le problème, en faisant des actes unilatéraux sans l'accord des Palestiniens et sans l'accord des voisins des pays arabes, notamment de la Jordanie. Et alors, un des points de ce plan, c'était l'annexion notamment d'une partie de la Cisjordanie que, on ne précisait pas l'étendue du territoire, mais enfin, on parlait de 20 à 30% du territoire, notamment la vallée du Jourdain. Et Gantz, lui, dans sa campagne électorale, avait dit qu'il aurait soutenu l'annexion de la partie de la vallée du Jourdain notamment, mais uniquement dans le cadre d'un accord international, avec un soutien international, et notamment du voisin d'Israël, c'est-à-dire la Jordanie, qui s'y opposait. Et Netanyahou veut, lui, absolument, dans les mois à venir, une fois le gouvernement constitué, prononcer cette annexion. Donc là, c'est un débat en cours. Netanyahou veut prononcer cette annexion parce qu'il a le soutien de Trump, et il a peur que Trump ne soit pas réélu dans quelques mois. Donc voilà, dans ce contexte-là, il pousse à cela, et pour l'instant, n'accepterait une annexion que dans le cadre d'un accord international, donc avec un soutien international.
Alors, je voulais vous poser une dernière question, et si vous pouviez répondre très très vite, David Chemla, parce qu'il nous reste pas longtemps, une ou deux minutes. Dans votre dernière newsletter, vous écrivez que deux tabous qui existaient depuis la création du pays sont tombés lors de cette crise politique. Dites-nous très très rapidement quels sont ces deux tabous.
Deux tabous. Le premier, si vous voulez, suite à toutes les élections, jamais on a considéré que les partis arabes pouvaient être représentés dans le cadre d'une gestion du gouvernement, dans le cadre d'une alliance au pouvoir, etc. Cette fois-ci, même le parti d'Avigdor Lieberman, qui est plutôt un parti qui a toujours parlé des Arabes comme d'une cinquième colonne, a accepté d'appeler au choix de Gantz comme premier ministre avec l'Union arabe, la liste unie arabe, qui est avec ses 15 députés. Ça, c'est un premier cas. Donc les Arabes, compte tenu de leur poids maintenant dans le pays, veulent jouer un rôle. Et en plus, il sera difficile de leur interdire, d'autant plus qu'ils participent au front avec les médecins et les soignants. Ils puissent rien contre la maladie. Vous savez qu'il y a 20-21% des soignants qui sont arabes dans le pays, qui sont infirmiers, médecins, et près de 50% des pharmaciens. Donc c'est le premier tabou. Les Arabes veulent participer. Deuxième point, de leur point de vue aussi, les Arabes ont soutenu Gantz. Jusqu'à présent, suite à des élections, ils n'avaient jamais appelé à soutenir globalement un Premier ministre. Là, tous unis, ils avaient choisi Gantz comme Premier ministre. Donc eux-mêmes assument ce rôle qu'ils veulent jouer. Évidemment, là, ils vont être
déçus. Deuxième tabou.
Ils vont être déçus du fait du choix de Gantz qui n'a pas donc accepté de tenter de créer un gouvernement. Mais malgré tout, je pense que dans l'avenir, on tiendra compte beaucoup plus de leur poids politique et eux-mêmes voudront jouer un rôle politique. Et ça, c'est bien pour l'avenir du pays.
D'accord. Alors écoutez, l'émission se termine, David Chemla. Je vous remercie d'avoir répondu à nos questions et puis j'espère qu'on se reverra bientôt sur notre antenne. Chers auditeurs, je vous souhaite malgré tout un PSR Saméar à fêter évidemment en cercle familial très restreint. On se retrouve donc pour un autre rendez-vous dans 15 jours. C'était Paul Ouzimé Hersen à l'antenne avec Chronique pour la paix.